Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La chef de l'opposition biélorusse poursuit sa tournée européenne. Svetlana Tikhanovskaya était à Berlin hier pour rencontrer Angela Merkel. Elle était auditionnée en visioconférence aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Paris avec un message. Aidez-nous et il faut maintenir la pression contre le régime de Loukachenko. Les manifestations se poursuivent à Minsk et dans le pays pour dénoncer des élections truquées. Et après l'arrestation des trois principaux opposants, ce sont les femmes qui ont repris le flambeau de la révolution. Elles en sont les porte-parole, mais aussi les forces vives dans ces défilés en blanc et rouge qui ont lieu tous les dimanches dans le pays voisin en Lituanie, où ces réfugiés d'ailleurs, Svetlana Tikhanovskaya, Marielle Vituro, a rencontré ses opposantes déterminées.
Dasha a une vingtaine d'années. Elle étudie le droit entre Minsk et Vilnius en Lituanie. Et cette révolution a marqué un tournant dans son itinéraire de femme engagée. Cet été, Dasha était dans sa famille à Minsk. Elle est rentrée pour aller voter. Elle y est restée pour manifester.
Au début, les policiers ne faisaient pas du tout attention à nous. On peut dire qu'on a renversé leur attitude sexiste en notre faveur. Ils pensaient « Ah, ce ne sont que des femmes avec des fleurs. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire de mal ?» Les gens nous donnaient des fleurs, de l'eau, du chocolat pour nous soutenir, mais aussi pour montrer que dans cette histoire, tout le monde est uni.
Pour ces marches de femmes, Dasha a emmené sa mère avec elle.
Cette marche des femmes a été un point de non-retour. Ça nous a donné tellement de force. Je ne peux pas décrire cette atmosphère. C'était tellement... Lors de la première manifestation, nous portions des habits neutres pour ne pas nous distinguer. Mais pour la marche des femmes, nous étions toutes habillées en blanc. C'est la couleur de la paix. Nous avions des fleurs blanches pour montrer que nous n'avions pas d'armes, que nous étions des manifestantes pacifiques.
La première figure de cette révolution, c'est Svetlana Tikhanovskaya. Quand son mari Sergueï, blogueur très populaire et candidat à l'élection, est emprisonné, elle décide de prendre la relève. Le 16 juillet, la commission électorale accepte sa candidature, la seule candidature indépendante d'Dasha.
He's sexist.
Alexandre Loukachenko est sexiste. C'est pour cette raison qu'il a pensé qu'elle n'était qu'une simple mère au foyer, une professeure d'anglais qui passait son temps à faire la cuisine pour sa famille et qui ne savait pas faire autre chose. C'est pour ça qu'il a accepté sa candidature, car il pensait qu'elle ne représentait aucun danger. Mais en fait, c'est l'erreur principale que les autorités ont faite.
Un miracle presque pour Almira Ousmanova, chercheuse en sciences sociales. Un paradoxe aussi quand on sait que les plus fidèles électeurs de l'actuel président Alexandre Loukachenko sont surtout des électrices. Une révolution s'est mise en marche pour les femmes.
Les femmes, même pendant cette campagne, étaient assez souvent traitées comme les objets. À mon avis, ce qui se passe, et ça c'est peut-être le plus important maintenant, c'est que les femmes se réalisent comme les sujets politiques. Ce n'est pas seulement parce que les hommes candidats ont été arrêtés, mais aussi parce que les femmes ont réalisé qu'elles peuvent être plus actives politiquement.
Les femmes existent aussi à titre de symbole dans cette révolution, comme Eva, ce portrait de femme réalisé par Soutine, peintre russe d'origine biélorusse, en 1928. La reproduction de ce tableau a trouvé une place en tête des défilés, tout simplement parce que cette œuvre fait partie de la collection privée d'un des candidats d'opposition, Victor Babariko, lui aussi empêché de s'exprimer.
Quand Victor Babariko, un des candidats, a été arrêté, la collection était aussi arrêtée, Eva. Donc Eva est devenue un symbole de résistance des Biélorusses et beaucoup de mes amis et beaucoup de Biélorusses, dans le signe de solidarité, ils ont mis ces photos de Eva dans les médias sociaux.
La jeune génération a aujourd'hui de nombreux modèles. Maria Kolesnikova, qui a déchiré son passeport pour rester se battre dans son pays, elle est actuellement emprisonnée. Ou Svetlana Alexeyevitch, prix Nobel de littérature et grande figure du Conseil de coordination pour la transition démocratique. Pour la jeune Dasha, cet engagement politique doit désormais se traduire dans des engagements plus concrets pour changer la société.
La violence domestique est un vrai problème ici. Et puis, il existe toujours une liste de métiers interdits aux femmes dans la construction ou la maintenance, par exemple. La société est toujours très patriarcale. La raison d'être des femmes est d'avoir des enfants et de s'occuper de leur famille.
Aujourd'hui, la répression du régime n'épargne pas les femmes. Trois étudiantes de l'université de Vilnius où étudie Dasha sont actuellement emprisonnées pour avoir participé aux manifestations. Dimanche dernier, le mot d'ordre était de marcher partout dans la ville sans s'attrouper avec des fleurs. Les droits des femmes attendront encore un peu. Le plus important reste le départ d'Alexandre Loukachenko.
On aura rarement autant débattu de l'opportunité d'une nouvelle génération de téléphonie mobile, la 5G, qui doit permettre un débit de transmission des données 10 fois plus rapide et des objets connectés à grande échelle n'est pas consensuel, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces détracteurs pointent les risques de ces nouvelles ondes sur la santé ou même les risques d'espionnage et de perte de souveraineté, car le géant mondial de la 5G, c'est l'équipementier chinois Huawei, signe que les débats sont électriques. Le Royaume-Uni a finalement fait volte-face et a rompu son contrat avec Huawei. Les explications à Londres de Marie Billon.
Le Royaume-Uni avait accepté la technologie de Huawei pour son réseau 5G. Pas plus tard qu'en janvier dernier, le gouvernement avait décidé d'imposer un plafond à sa part de marché, mais le géant chinois n'était pas banni. C'est finalement chose faite 6 mois plus tard. Le gouvernement a finalement annoncé que les télécoms britanniques n'auront plus le droit d'acheter les équipements Huawei à partir du 31 décembre 2020. Et toute technologie Huawei concernant la 5G devrait être retirée des réseaux d'ici 2027 au plus tard. Pourquoi ce revirement? Tout est officiellement une question de puce. En mai dernier, la Maison-Blanche a imposé de nouvelles sanctions qui empêchent largement Huawei de créer ses propres puces. Il lui faut donc utiliser des puces d'une autre société. C'est cette externalisation qui pose problème selon le Centre national de cybersécurité britannique. Dans un rapport, il explique que les produits Huawei, modifiés pour recevoir des puces d'une tierce partie, ont plus de chances de rencontrer des problèmes liés à la sécurité et à la fiabilité. Certains experts en sécurité à travers le monde craignent aussi que l'État chinois ne se serve du puissant signal de la 5G à travers la technologie de Huawei pour espionner les gouvernements et les personnes, voire même le cas échéant, pour perturber la vie quotidienne quand nous serons dépendants de cette nouvelle technologie pour conduire une voiture ou actionner une centrale électrique, par exemple. C'est une décision qui a été difficile à prendre, a dit le secrétaire d'État au numérique britannique, Oliver Downden, notamment parce que l'installation de la 5G dans le pays va coûter plus cher, plus de 23 milliards de livres en plus et devrait être retardée de 2 à 3 ans. Mais Londres a-t-elle vraiment fait ce choix? Washington l'a poussée dans cette direction à marche forcée, dit-on. Alors que les négociations pour le Brexit patinent, le Royaume-Uni tient absolument à obtenir un accord commercial favorable avec les États-Unis. Or, le président Donald Trump, qui utilise Huawei dans son bras de fer avec la Chine, aurait aussi conditionné un bon deal avec les Britanniques à un abandon du géant chinois pour la 5G.
Et en pleine crise économique provoquée par la pandémie, l'Union européenne veut inciter les États membres à se lancer dans cette nouvelle technologie, vecteur potentiel de croissance. 14 pays européens se sont déjà lancés dans l'aventure. La France, qui était en retard, a finalement procédé la semaine dernière aux enchères des fréquences auprès des opérateurs. Pas question de revenir à la lampe à huile ou au modèle Amish, a répondu le président français à tous les opposants qui demandaient un moratoire. Des abonnements 5G devra donc commencer à être disponible dans l'Hexagone dès la fin de l'année. La grande question est aussi de savoir avec quelles infrastructures, face au déboire du chinois Huawei, deux équipementiers européens pourraient tirer leur épingle du jeu. Il s'agit du suédois Ericsson, numéro 2 mondial, avec un peu plus d'un quart des parts de marché, devant le finlandais Nokia et ses 18% de parts de marché. Pour en parler, on retrouve notre correspondante en Suède, Anne-Françoise Hiver. Peut-être faut-il rappeler déjà quelles sont ces deux entreprises basées dans le nord de l'Europe.
Première chose, ce ne sont pas de petits jeunes. Le finlandais Nokia est né en 1865. Pendant les premières décennies, il produit du papier, puis se diversifie, caoutchouc, câbles, électronique. Nokia touche à tout. Mais le conte de fées débute vraiment dans les années 90 quand le Finlandais se concentre sur la téléphonie mobile et devient en quelques années le numéro 1 mondial. Il le restera d'ailleurs jusqu'en 2011. Mais il rate alors le virage des smartphones, c'est la dégringolade. Nokia décide alors de se recentrer sur ses activités d'équipementier, raison pour laquelle il acquiert en 2015 le français Alcatel-Lucent. De son côté, le suédois Ericsson a été fondé en 1876 par Lars Magnus Ericsson. Très vite, il devient le plus gros fournisseur de téléphones en Scandinavie. Un siècle plus tard, en 2001, il s'associe avec le japonais Sony pour produire des téléphones portables et sera pendant quelques années un des leaders sur le marché. Mais le partenariat bat de l'aile. En 2011, Ericsson revend ses parts à Sony et se concentre sur les équipements et logiciels de réseau.
Et comment Ericsson se positionne-t-il sur le marché de la 5G?
Eh bien, c'est sans conteste leur priorité. Ericsson actuellement se situe à la deuxième place au classement derrière le chinois Huawei avec près d'un quart de part de marché. Ces dernières années, le groupe en difficulté financière s'est imposé une cure d'amincissement sévère. Il a licencié 20 000 de ses salariés pour en conserver 90 000 dans le monde. Seule exception dans les coupes, le secteur de la recherche et du développement. 5 000 ingénieurs ont même été embauchés. Le Suédois mise sur la technologie, proposer les meilleures solutions et un catalogue aussi fourni que possible pour faire face à la concurrence. Du côté de Nokia, la situation est plus difficile. Troisième sur le marché, le Finlandais a pris du retard à cause de mauvais choix technologiques auxquels il est en train de remédier. Il est lui aussi passé par un régime sec, incluant d'ailleurs le licenciement d'un tiers de ses effectifs en France auprès de sa filiale Alcatel-Lucent.
Et ces deux géants européens profitent-ils des déboires de Huawei?
En partie, oui. Ainsi, le très beau coup réalisé par Nokia, qui vient de signer un contrat avec l'opérateur britannique BT, qui travaillait depuis 15 ans avec Huawei. Attention, Nokia et Ericsson ne sont pas les seuls sur la brèche. Aux États-Unis, le sud-coréen Samsung vient d'être retenu par l'opérateur américain Verizon pour installer la 5G contre Nokia qui gère son réseau 4G. Par ailleurs, les deux Européens visent aussi les terres de Huawei car la Chine reste le plus gros marché mondial. Ericsson a ainsi passé des accords avec les trois plus gros opérateurs chinois pour des segments et des régions spécifiques. En juin, Nokia a annoncé qu'il fournirait 10% du réseau central 5G de China Unicorn. Mais cela reste peu, avec toujours le risque de sanctions. Pékin laisse entendre que si l'Union européenne emboîte le pas au Royaume-Uni et aux États-Unis, la Chine pourrait réagir en limitant l'accès de son marché à Nokia et Ericsson.
Bataille commerciale à suivre. Merci Anne-Françoise Hiver. Et en Allemagne, la 5G est déjà une réalité avec des tests à grande échelle, comme sur le port de Hambourg, dans le cadre d'un projet de l'Union européenne. Julien Michossi, vous êtes notre correspondant à Berlin. Et chez vous, l'industrie a déjà pris les devants, à l'image du constructeur automobile Daimler.
Oui, et de façon spectaculaire, avec la mise en route il y a quelques semaines de la première usine au monde dotée entièrement d'un réseau 5G. Concrètement, cela signifie une production totalement numérisée et un énorme investissement de près de 750 millions d'euros. Tout cela se passe sur le site historique de Daimler à Sindelfingen, près de Stuttgart.
Et si un géant industriel comme Daimler mise sur cette technologie à cette échelle, Julien, c'est donc que les avantages espérés de la 5G sont plus que prometteurs.
Pour Daimler, dans un secteur en pleine révolution, avec la fin annoncée du moteur à combustion et fortement touché par la crise sanitaire, il n'y a pas d'alternative. La 5G doit permettre de passer à une production intelligente. Sur la ligne de montage, machines et installations sont reliées entre elles et peuvent ainsi travailler en complète autonomie. Pour un incroyable gain en termes de temps et de ressources humaines. Dans les faits, cela signifie une augmentation de 25% de la production par rapport à une usine conventionnelle, ainsi qu'une réactivité, une flexibilité bien plus grande pour répondre aux besoins du marché. Des avantages accompagnés cependant de fortes craintes parmi les salariés du groupe, au moment où Daimler prépare le plus important programme d'économie de son histoire. Pas de chiffres officiels encore, Frédéric, mais on parle de 30 000 emplois supprimés dans le monde, dont plusieurs milliers en Allemagne.
La 5G future annoncée de l'industrie, mais l'Allemagne teste également ce réseau auprès des particuliers et depuis un an déjà.
Et ça en fait sourire plus d'un ici, hein, quand on connaît la faiblesse du réseau de téléphonie mobile en Allemagne. Même à Berlin, où profiter déjà de la 4G s'apparente souvent au jeu du chat et de la souris, sans parler des nombreuses zones blanches dans les Länder ruraux. Si la 5G est bien disponible dans certains quartiers des grandes villes, comme à Berlin, le réseau reste réservé à certains professionnels. La raison est simple, vous avez besoin d'une carte SIM spéciale, laquelle n'est pas accessible au grand public. Thorsten Neuhe, expert en réseau de téléphonie mobile pour le site Inside Digital, fait partie des tout premiers à avoir pu tester la 5G et pour l'instant, il reste sur sa fin.
Il faut d'abord savoir où le réseau se trouve exactement et ce n'est pas toujours évident. Et pour pouvoir en profiter pleinement, dans l'idéal, il faut également savoir où sont les antennes. Pour faire simple, la zone de réception est très limitée. La meilleure configuration est quand vous pouvez voir l'antenne. Dès que vous êtes en intérieur, la réception devient très compliquée.
Une expérience plutôt décevante, même s'il faut bien préciser, Julien, que les opérateurs mettent actuellement tout en œuvre pour développer leur réseau, avec pour horizon la fin de l'année, l'arrivée sur le marché de téléphones compatibles avec la 5G.
La période de Noël sonnera en effet le véritable lancement de la 5G pour le grand public. Pourtant, les experts comme Thorsten Nowetzki se posent la question de l'utilité d'un tel réseau pour les consommateurs, même s'il a bien été séduit par l'expérience de télécharger un film dans la rue en quelques secondes.
Si vous vivez dans une grande ville, dans une zone 5G, et que vous disposez du téléphone adéquat, oui, vous pouvez envoyer et recevoir des données à une vitesse phénoménale. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin quand on marche dans la rue? Pour les professionnels, c'est certainement utile. Si vous êtes un client privé, avec un usage traditionnel, comme les services de messagerie, consulter les informations, vos emails, je vais être direct. Non, vous n'avez pas besoin de la 5G.
Un avis donc bien tranché pour cet expert. Merci Julien Méchessy et à bientôt sur Accent d'Europe. En France, la fronde anti-5G est forte chez les écologistes et à gauche de l'échiquier politique. Est-il utile de pouvoir télécharger un film porno en haute définition en quelques secondes dans un ascenseur, a ainsi raillé un élu vert? Plus sérieusement, la question de la santé est une vraie préoccupation. Pour l'instant, aucune étude scientifique spécifique sur la 5G n'est encore disponible, mais le Centre international de recherche sur le cancer a déjà classé d'autres radiofréquences comme cancérogènes possibles pour l'homme. En Suisse, un des pays pionniers de la 5G, les premières antennes ont été installées en 2019. Les opposants aussi donnent de la voix et avec un certain succès, Jérémy Lanche.
Même l'icône nationale Roger Federer, convoqué par un opérateur pour vanter les mérites de la 5G, n'a rien pu y faire. La fronde est partie de la Suisse romande, avec la multiplication de collectifs anti-5G. À chaque fois, les mêmes inquiétudes sur les effets de la technologie sur la santé. Le débat a ensuite migré vers les parlements locaux. Genève et Lausanne ont par exemple décidé de geler l'installation de nouvelles antennes en attendant d'avoir des études fiables. D'autres cantons ont demandé au gouvernement d'instaurer un moratoire au niveau national. Techniquement, les opérateurs ont quand même développé leur réseau. De 300 antennes 5G l'an passé, on en est aujourd'hui à près de 3000 en Suisse, tout simplement parce que les autorités locales ne peuvent pas empêcher les opérateurs de modifier les antennes qu'ils possèdent déjà. C'est ce qui leur permet d'affirmer que plus de 80% de la population est couverte. À un détail près, on parle de versions de base de la 5G avec des fréquences qui sont déjà utilisées par nos smartphones. Ce qui inquiète les opposants, ce sont les bandes de fréquences autour de 26 GHz. C'est ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Et peu d'études existent encore pour savoir si ces ondes ont un effet ou non sur l'homme et l'environnement. Du côté des opérateurs, on s'impatiente. Le Parlement suisse vient en tout cas de faire un geste dans leur direction. Il a récemment rappelé la nécessité de déployer la 5G dans tout le pays.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. On se donne rendez-vous dès demain.